Radio Kapi. Oh, Kapi.
Sans plus tarder, voici les titres de votre journal. La nouvelle escalade des violences dans l'est de la RDC au centre des discussions hier vendredi à New York de la réunion trimestrielle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général adjoint a appelé au strict respect de la résolution 2773 qui exige notamment la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités à l'est de la RDC. Un premier sac de charbon vert vient d'être produit à partir de l'est de l'acacia coupé dans les plantations villageoises du paysage des Angambi dans la province de la Tchopo. Une production qui intervient 6 ans après, tant nécessaire pour que cette essence à croissance rapide atteigne la maturité. L'invité de ce journal est Ferdinand Jairombe Vaweka, expert en outils d'intelligence artificielle générative venu du Canada. Il parle de la formation à Bunia des dizaines de chercheurs à l'usage de l'intelligence artificielle dans les recherches scientifiques. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue et bonne écoute. La nouvelle escalade des violences dans l'est de la RDC a été hier vendredi à New York au cœur des discussions de la réunion trimestrielle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, qui a présenté le rapport du secrétaire général, a déploré l'écart entre les avancées diplomatiques et les réalités sur le terrain. Il appelle au strict respect de la résolution 2373 qui demande notamment la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités et au respect des engagements pris dans les accords de Doha et Washington. On écoute Jean-Pierre Lacroix.
L'expansion territoriale de l'AFC M23, l'établissement d'administrations parallèles et l'affaiblissement de la présence étatique dans certaines zones alimentent une dynamique qui menace directement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les développements récents au sud Kivu illustrent de manière indéniable l'écart qui existe entre les efforts diplomatiques et la réalité vécue par les populations civiles frappées par les hostilités persistantes. Sans mesures concrètes et immédiates pour faire respecter les accords conclus, les dynamiques de conflit risquent de fermer la voie du dialogue. Les avancées diplomatiques doivent désormais se traduire par des améliorations réelles sur le terrain afin que le peuple congolais puisse enfin entrevoir la sécurité et la stabilité auxquelles il aspire. À ce moment critique, le rôle du Conseil de sécurité est plus déterminant que jamais. Une réaction claire, unie et résolue du Conseil est essentielle pour prévenir une aggravation du conflit, enrayer les risques de fragmentation de la RDC et contenir la régionalisation croissante des violences. Le Conseil dispose des outils politiques et normatifs nécessaires pour faire respecter ces résolutions, soutenir les efforts de médiation en cours et envoyer un message sans équivoque à toutes les parties quant à l'impératif du respect du cessez-le-feu, du droit international humanitaire et de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Par ailleurs, les États-Unis se disent extrêmement déçus par la reprise de violence dans l'est de la RDC au lendemain de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité hier vendredi, les États-Unis ont pointé du doigt le président rwandais Paul Kagame d'avoir planifié l'exécution de cette guerre en apportant son soutien à la rébellion de l'AFC M23. Par conséquent, les États-Unis exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, affirmant qu'ils disposent des outils pour tenir responsables ceux qui sapent les efforts de paix. Mike Waltz, représentant des États-Unis auprès de l'ONU.
Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Depuis des années, les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions.
D'autre part, la France exige le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais, Conformément à la résolution 2773 de l'ONU, au cours de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier vendredi à New York sur la situation en RDC, le représentant de la France a dénoncé la violation de la souveraineté de la RDC et l'aggravation de la crise humanitaire. Nicolas de Rivière appelle ainsi les conseils de sécurité à ses responsabilités face à cette situation. Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France à l'ONU, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati Massanzi.
La prise de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, frontalière du Burundi, emporte des risques sérieux et imminents d'escalade régionale et menace directement la sécurité de pays frontaliers. Le M23 doit respecter ses engagements au titre de la déclaration de principe et de l'accord cadre de Doha. La résolution 2773 doit être pleinement appliquée et respectée par l'ensemble des acteurs, à commencer par son appel à un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. Les actions provocatrices ou les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils doivent cesser. La France, en tant que porte-plume, a présenté un projet destiné à positionner la MONUSCO dans un rôle d'accompagnement de tous les efforts de paix. Cela comprend la question de la surveillance d'un cessez-le-feu, pour laquelle la MONUSCO dispose d'atouts évidents par la présence sur le terrain, son expertise, ses capacités et son impartialité. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, les pays de la région et les contributeurs de troupes attendent du Conseil qu'il se montre à la hauteur de ses responsabilités au regard de l'urgence.
Et face à la violation de l'accord de Washington par le Rwanda, la ministre des Affaires étrangères de la RDC appelle le Conseil de sécurité à agir par des sanctions. Elle demande au Conseil de faire appliquer la résolution 2773 non respectée par le Rwanda. Par ailleurs, Thérèse Kayikwamba plaide également pour un mandat de la MONUSCO robuste, cohérent et adapté aux réalités du terrain en vue de faire face aux enjeux sécuritaires actuels. On l'écoute.
Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission. Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandé, il l'a négocié, il l'a signé. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773, imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme Rwanda, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités.
Notez que tous ces propos ont été sélectionnés par Grace Hamzati Massanzi. Dans la province de la Tchopo, un premier sac de charbon vert vient d'être produit à partir de l'acacia coupée dans les plantations villageoises du paysage de Yangambi. Cette production intervient 6 ans après, temps nécessaire pour que cette essence à croissance rapide atteigne la maturité. C'est une initiative du Centre international pour la recherche forestière et le Centre international pour la recherche en agroforestière, avec l'appui de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du secteur privé. Objectif, contribuer à lutter contre la déforestation. Le premier sac de ce charbon durable a été remis officiellement jeudi dernier au gouvernement provincial par l'entremise du ministère provincial en charge de l'énergie. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Cette initiative est née du souci d'améliorer les chaînes de valeur de bois énergie durable dans la province de la Tchopo. Celle-ci passe notamment par l'encadrement des communautés locales productrices de charbon de bois, en les apprenant notamment à planter des arbres à croissance rapide et à améliorer la carbonisation. Selon le docteur Jolian Chour, experte du CIFOR ICRAF, un engagement commun de toutes les parties prenantes de cet apport intégral devrait contribuer à des impacts positifs autant pour la population que pour la forêt. Pour sa part, Eradi Selemani, président de l'association des producteurs de charbon de bois durable, dit avoir coupé 62 arbres sur les 188 marqués sur un quart d'hectare pour un four de 6 mètres. Émerveillé par cette expérience, la province, par le biais de Bernard Lotika, représentant du ministre provincial de l'énergie, promet d'appuyer cette initiative en créant un site destiné au centre de négoce du bois énergie durable. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC déclarée recevable par l'Assemblée nationale au cours de la plénière d'hier vendredi. Son initiateur, le député Sosten Maombi Katsongo, explique le bien fondé de ce texte législatif, indiquant que la RDC est en mauvaise position en matière de santé et sécurité alimentaire et animalière. Pour cet élu des Lubero au Nord Kivu, le développement du secteur de l'élevage reste un défi à relever dans le pays en vue de booster et diversifier l'économie nationale. On écoute Sosten Maombi Katsongo dans ses propos recueillis par Grâce Amzati Masanzi.
Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette tribune la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14 par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Une loi sur l'élevage répond à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie.
Notez qu'une autre proposition de loi déclarée recevable au cours de la même plénière est celle modifiant et complétant la loi portant code du travail. Son initiateur, le député Patrick Eshiba Kasemwana, souligne qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi actuelle apparaissent inadaptées avec un impact négatif dans la protection sociale des travailleurs en République démocratique du Congo. Et puis dans les territoires de Beni au Nord Kivu, les transporteurs ne veulent plus payer les taxes routières destinées à l'entretien des routes. Ils exigent d'abord que les attributaires des différents axes routiers expliquent à quoi celui-ci a servi jusqu'ici. Car selon eux, presque tous les axes routiers sont dans un état de délabrement très avancé. Réunis vendredi à Kiavinyonge, en présence des attributaires et des autorités politico-administratives, ils ont décidé de suspendre le paiement de toute taxe routière jusqu'à ce que ces routes soient réhabilitées. Delphin Malekani, président de la société civile de Kiavinyonge et représentant des usagers de la route, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous avions constaté avec indignation que le délabrement est avancé de tous les tronçons routiers. C'est ce qui a entraîné la colère légitime de ces usagers. Les recommandations formulées par les usagers devant le comité de sécurité et devant les attributeurs et sont désormais prioritaires, considérant la défaillance persistante des attributeurs dans l'exécution des travaux. Il a été dit du 10 au 14 décembre, le paiement de la taxe routière sera effectué normalement par les usagers de la route. Mais du 15 décembre au 15 janvier 2026, aucune taxe routière ne sera payée afin de permettre l'observation stricte de l'exécution des travaux par les structures responsables, puisque les frais déjà reçus vraiment ne sont pas utilisés comme il le faut. À l'issue de cette période, c'est maintenant qu'une réunion d'évaluation sera menée pour décider de la poursuite ou de la prolongation de la suspension de ces non-paiements. C'est pourquoi nous appelons tous les usagers, autorités et parties prenantes à respecter ces décisions et à demeurer vigilants pour garantir la réhabilitation effective de nos routes.
Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules, des motocyclistes et autres engins roulant au Kasaï oriental. C'est cette baisse de prix du litre d'essence en Bujimaï. Il se négocie actuellement entre 4300 et 4500 francs congolais. Pourtant, la semaine dernière, ce même litre s'est vendu entre 5000 francs et 6000 francs congolais. À l'association des importateurs de produits pétroliers, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Un reportage de Serne Dalafina rendu par Jean Gantou.
C'est depuis mercredi dernier que plusieurs tableaux des prix sont visibles le long des grandes artères de la ville de Mbujimaï. Certains y ont mentionné les prix des 4000 francs congolais, d'autres 4500 francs congolais. À l'association des importateurs de produits pétroliers, on explique cette situation par
la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, le prix doit nécessairement baisser. Il y a eu afflux sur le marché.
Malgré cela, Armand Kalinga Yuanzembele estime que cette baisse est de courte durée.
Mais ne soyez pas surpris, encore, que les carburants montent encore de prix parce qu'il y a le pont de Bukama qui s'est cassé. Il y a de cela une semaine. Il y a le fil de camions de part et d'autre. Nous observons, il y a deux ou trois rails qui se sont cassés et qui risquent même de s'enfoncer avec un camion chargé. Le trafic est momentanément interrompu. Donc ça risque encore de faire remonter les prix de carburant.
Signalons que cette situation n'a pas encore entraîné la baisse du prix de la course des transports en commun.
En Ituri, pendant ce temps, le transport fluvial se développe sous le lac Albert avec la mise en service de plusieurs canaux rapides reliant la RDC à l'Ouganda. Ces embarcations assurent les transports de personnes et de leurs biens dans de meilleures conditions de sécurité et de rapidité. Une alternative de plus en plus prisée par les commerçants, notamment en cette période de fête sur l'axe Bunia-Kasenyi-Ouganda. Isaac Remouyopé, reportage.
Au moins 7 agences de voyage sont aujourd'hui opérationnelles sur les lacs Albert. Chacune disposa d'au moins 2 canaux rapides pouvant transporter entre 20 et 40 passagers. À l'espace de 2 ans, cette flotte fluviale s'est considérablement développée pour répondre à une demande croissante. La dernière agence a été lancée la semaine dernière afin de renforcer le trafic sur les axes Bunia-Chomia et Kasenyi en RDC vers Buguma et Toroko en Ouganda avec correspondance vers Kampala. En cette période de festivités, ces agences effectuent 2 à 3 rotations par jour. Elles sont utilisées aussi bien par les commerçants venus s'approvisionner que par des patients transférés vers des hôpitaux mieux équipés à l'étranger. Ces canaux rapides offrent des conditions de sécurité jugées satisfaisantes et réduisent considérablement les temps de traversée, environ 1 heure pour parcourir plus de 50 km sur les lacs Albert. Un gain d'état considérable par rapport aux anciennes embarcations en bois qui mettaient jusqu'à 6 heures avec de nombreux risques de naufrage. Une passagère témoigne.
Les gens se sentent vraiment en sécurité. Moi-même, je suis vraiment l'une de ces personnes dont je craignais les pirogues. Mais avec les canaux rapides, en tout cas, ça va bien. Mais il y a beaucoup de commerçants, de malades. Les gens attendent jusqu'au 3e tour.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, la campagne électorale s'ouvre ce samedi 13 décembre pour 2 semaines intenses en prélude aux élections municipales, régionales, législatives et présidentielles prévues le 28 décembre prochain. Dans un contexte dans lequel la transparence du scrutin demeure un enjeu majeur, un centre de recherche lié à la société civile innove et a lancé une plateforme numérique baptisée « Surveille ton vote ».
L'invité.
Ferdinand Djairombe Vaweka, expert en outils d'intelligence artificielle générative venu du Canada, en mission en Ituri, est notre invité. Il parle de la formation à Bunia des dizaines de chercheurs du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement CRMD à l'usage de l'intelligence artificielle dans les recherches scientifiques. Ferdinand Djairombe Vaweka répond aux questions d'Isaac Remouyopi.
Djairombe Vaweka Ferdinand, bonjour. Vous êtes en mission à Bunia pour former les chercheurs du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement sur l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, que faut-il entendre d'abord par intelligence artificielle et quelles sont ses potentialités dans les nouvelles technologies?
Okay, au fait, l'intelligence artificielle se réfère à la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions cognitives humaines, comme le raisonnement, la résolution des problèmes et puis même l'apprentissage. L'IA aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour justement rendre tout ce que l'humain fait plus facile. C'est comme quand on utilise une houe pour cultiver 10 hectares, c'est impossible actuellement, il faut utiliser un tracteur. L'IA maintenant, c'est un tracteur pour les chercheurs, pour débroussailler toute une quantité phénoménale des outils de connaissances de recherche. C'est au fait la connaissance universelle que regorge l'IA.
Quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans les recherches scientifiques, comme vous êtes en train de former des chercheurs au CRMD?
En recherche scientifique, c'est un outil incontournable pour la revue de la littérature, par exemple, pour accéder à des connaissances dans tous les domaines. Ça aide à synthétiser, à résumer, à faire tout. Ça comble même les lacunes des chercheurs. Dans les domaines que vous ne connaissez pas, ça vous apporte de la matière.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire vraiment des recherches à travers l'intelligence artificielle? C'est que chercher des livres, chercher des données pour écrire soit une thèse, et mémoire, et ainsi de suite.
Différents types d'IA ont des différents apports pour les chercheurs. Et donc, il y a des IA qui sont totalement pour la recherche, par exemple, de la documentation. Et au fait, tous les systèmes classiques ou traditionnels ont déjà des IA en eux pour permettre aux chercheurs d'accéder facilement à l'information.
Alors, Quels sont les types de IA qu'on peut utiliser dans les recherches scientifiques?
Par exemple, dans la recherche scientifique, il y a, pour accéder à des bases de données, on a Google Scholar, mais qui a déjà l'IA intégrée. Google Scholar regroupe toutes les publications et toutes les revues indexées pour les scientifiques. C'est vraiment intéressant. Dans la recherche actuellement, il y a un moteur de recherche qui est propulsé par l'IA, qui s'appelle Perplexity. Il est très efficace parce qu'il cite les sources d'où il tire l'information.
Comment peut-on éviter les plagiats dans l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Ça, c'est une préoccupation majeure et valide. Et les chercheurs, en fait, doivent toujours être maîtres de ce qu'il fait. Il faut qu'il utilise sa tête et non se fier aveuglément à ce que l'outil lui donne. Parce que l'outil peut aussi générer des plagiats, comme vous dites. Mais utiliser l'IA beaucoup plus pour parfaire ce qu'on fait et aller plus vite. C'est pour ça que j'ai mentionné la revue de la littérature, par exemple.
Est-ce que c'est facile de détecter que quelqu'un a fait les plagiats à travers l'intelligence artificielle?
Heureusement que l'IA offre aussi des outils pour détecter le plagiat, pas seulement d'un auteur, mais aussi de tout ce qui est fait par l'IA et détectable par l'IA. Et là, je peux par exemple faire référence à l'outil qu'on appelle Quillbot ou bien Zero GPT. Sans oublier d'autres outils pour détecter les plagiats qui existent déjà comme Compilatio et tout.
Aujourd'hui, dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, est-ce que les enseignants, les étudiants, ils sont formés dans ces domaines pour un bon usage de l'intelligence artificielle?
Ça, c'est justement le défi de notre temps. C'est pour ça que je me prête comme un avocat pour former les gens à maîtriser, à s'apprivoiser ces outils. Parce qu'on vit une crise à notre époque où les enseignants ne sont pas préparés à corriger ou à évaluer les étudiants qui utilisent l'IA. Alors c'est vraiment ce qu'il faut encourager, que les enseignants puissent se former à ça.
Donc c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore d'usage dans les institutions d'enseignement universitaire.
La plupart des institutions sont encore en retard par rapport à ça. Et puis, il y a des institutions en Occident qui font des pas des géants, mais nous sommes encore distraits en Afrique.
Donc c'est-à-dire quoi? On rejette les travaux qui sont soit parfaits par l'intelligence artificielle.
Mais en Occident, on essaie d'encadrer l'usage de l'IA pour faire les travaux universitaires ou académiques. Même en Afrique en entier, on est encore en retard par rapport à ça.
Alors, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine? Parce que certaines personnes estiment qu'elle dissimule ou accentue les faiblesses humaines, notamment dans l'écriture. Qu'en pensez-vous?
C'est totalement vrai. L'IA peut nous affecter et nous induire en erreur dans certains cas, parce que l'IA, les algorithmes sont programmés pour que l'IA nous fasse plaisir. En fait, si l'IA ne sait pas vous répondre, il va inventer pour vous faire plaisir. Donc, c'est un danger majeur. Et quand l'IA invente, c'est des hallucinations. Donc, il ne faut pas croire à tout ce que l'IA donne.
Donc, c'est qu'il faut utiliser aussi son intelligence.
Totalement. C'est ce que j'appelle le gros bon sens. Comme on utilise les GPS pour naviguer sur la route, il faut utiliser les GBS pour nous. Le gros bon sens.
Ok. Alors, comment faire un bon usage de l'intelligence artificielle et en tirer les meilleurs profits dans les différents domaines?
Il faut l'utiliser comme un outil. Et puis, c'est l'homme qui a le dernier mot. Il ne faut pas laisser l'IA décider à votre place. Il faut toujours que vous puissiez contrôler ce que l'IA produit. Et puis, ça peut vous faire avancer beaucoup plus vite. Mais ne jamais faire confiance aveugle. N'utilisez jamais l'IA dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Utilisez l'IA toujours dans les domaines que vous maîtrisez déjà, parce que vous pouvez diriger l'IA. Sinon, ça va vous inventer des choses que vous ne connaissez pas. Mon conseil, c'est vraiment de se former à l'usage de l'IA dans le domaine de travail de chacun. Parce que c'est indispensable et incontournable à notre époque. Actuellement, si on ne connaît pas utiliser l'IA, on ne peut rien dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut se former à l'utilisation de l'IA de façon efficiente et éthique.
Jairon Bevaweka Ferdinand, expert formateur aux outils d'intelligence artificielle générative, je vous remercie.
Ok, merci à vous aussi.
C'était notre invité Ferdinand Jairon Bevaweka qui répondait à bonnes questions d'Isaac Remouyopi. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.